Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Et aujourd'hui, je vous propose de retrouver Julien et Ghislain, les gérants du musée de l'Absinthe à Auvers-sur-Oise, qui nous ont présenté dans un précédent rendez-vous compte l'immanquable collection de tableaux, affiches publicitaires, eaux-fortes, objets cultes liés à la fée verte, l'Absinthe. Une visite absolument incontournable, une visite qui se termine par une dégustation d'Absinthe, selon le rituel de l'époque, dans le bar des années folles, on pourrait dire, reconstitué avec beaucoup de minutie. Alors, une émission à retrouver en podcast, évidemment, sur le site d'IDFM. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à celle qui a rendu possible cette expérience. Et à vous deux, Julien et Ghislain, trois parcours à dire, rendez-vous compte. Rebonjour Julien.
Rebonjour.
Rebonjour Ghislain.
Rebonjour.
Et rebonjour Marie-Claude qui n'est pas avec nous dans le studio, non. Mais qui est avec nous, disons, en pensée.
Bah oui, complètement.
Voilà. Ouais. Alors justement, Marie-Claude Delahaye, une personnalité assez incroyable.
Ah bah complètement. Marie-Claude, c'est une maître de conférence au départ en biologie cellulaire.
Impressionnant.
Donc impressionnant, qui n'était pas destinée au départ à ouvrir un musée de l'absinthe. Et donc de cette cuillère à absinthe qu'elle a trouvée dans une brocante en 81, il lui est venu une passion et une envie de tarpenter, de connaître le 19e siècle et l'absinthe. Et elle en a fait une collection impressionnante. Mmh. Et puis c'est une femme dynamique, passionnante, passionnée, et qui nous a inculqué en très peu de temps sa passion pour l'absinthe.
Bah oui, ce qui est très touchant, c'est qu'on sent qu'elle a voué sa vie à la fée verte. Elle est carrément passionnée par l'absinthe, par tous les objets qui concernent l'absinthe, et du coup, elle a une envie incroyable de partage et de passion sur l'absinthe, oui, absolument.
Et puis elle a créé... À une époque où l'absinthe était un peu oubliée, c'est-à-dire dans les années 1980, plus personne parlait d'absinthe. Elle a recréé cette passion pour l'absinthe. Et en même temps, elle a fait donc une collection, la collection Marie-Claude Delahaye. C'est une collection impressionnante parce qu'au départ, elle n'avait pas de musée en 81. Elle a commencé à faire sa collection. Et puis, sa collection est devenue tellement riche qu'elle a fait des expositions. Donc, elle est allée dans des musées, elle a fait quelques expositions. Et petit à petit, comme l'exposition devenait de plus en plus... importante, elle s'est dit pourquoi pas ouvrir un musée. Mmh. Et l'idée d'Auvers est tombée comme ça, parce que honnêtement, à Auvers, c'est le pays des peintres. Vous avez Van Gogh qui est passé, Cézanne est venu aussi, Pissarro,
Daubigny,
bien entendu, qui a vécu là-bas, Camille Corot est même passé là-bas, qui est un ami de Daubigny. Elle s'est dit on va mettre le musée de l'absinthe à Auvers, et ça marche très très bien. C'est vraiment. Imprégné du village.
Bah, l'absinthe fait partie de toute façon du siècle, du 19e siècle, donc il a tout à fait sa place justement au pays des impressionnistes.
Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip. Tout en jouant avec le zip de ses lévis, je lis le vice et je pense à Carole Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches ointes.
Alors, Marie-Claude a écrit aussi un livre qui s'appelle L'Absinthe, histoire de la fée verte, 1983. Alors, ce qui m'a un peu amusé, c'est qu'elle a été primée par l'Académie de médecine.
Bah oui, bien sûr.
Donc, l'absinthe est validée par l'Académie.
Tout à fait. Et puis, elle a un esprit très scientifique, Marie-Claude. Ouais.
Donc, Marie-Claude a commencé par élaborer une collection d'objets.
Oui,
qu'elle a ensuite exposé un petit peu partout. Et ensuite, ça a été en 94, le musée.
Elle a fondé en juin 94 le musée. Alors au départ, le musée était encore plus était petit parce qu'il n'avait qu'une seule maison. Donc, parce que là, c'est deux maisons collées les unes aux autres. Et puis, elle a acquis cette maison pour en faire un musée. Et elle est arrivée dans un village qu'elle ne connaissait personne. Elle a pris, il y avait un terrain vague avec cette maison et elle a fait un jardin magnifique.
Magnifique. Ouais.
Elle a fait une collection, elle a mis sa collection, elle a fait toutes ses, toute seule. Hein, pendant, elle a tenu ce musée pendant plus de 30 ans. De façon, elle a tenu ce musée pendant plus de 30 ans et vraiment très très bien. Et puis là, elle nous a confié la gérance, mais elle a, voilà, toute seule, elle a réussi à constituer une collection impressionnante, la plus grande collection liée à l'absinthe et à l'esprit du 19e siècle en même temps, au monde, hein, on peut le dire, hein, complètement.
Donc c'est un jardin magnifique, effectivement, où pousse l'absinthe, entre autres.
Où pousse l'absinthe.
Et je dirais, où poussent aussi des artistes qui viennent exposer.
Oui, il y a des artistes qui viennent dans le jardin. Voilà. On a accueilli au mois de juin des artistes pour exposer dans le jardin. On va en accueillir toute la saison qui va venir, octobre, puis au renouveau du printemps plus tard, d'autres artistes dans le jardin, pas que dans le jardin d'ailleurs, un peu partout. Et donc c'est un vivier d'artistes, ce musée. Il y aura des représentations théâtrales, il y a des conférences, on va faire plusieurs événements.
La tradition continue.
La tradition continue, c'est très important.
Auvert, village d'artistes.
Exactement. Non,
voilà.
Dans un taudis dont l'amour d'une mère ne peut cacher l'atroce pauvreté, quelques bambins vivent dans la misère d'un peu de soupe et de grands coups de pied. Le père avait pourtant fait des études et aurait pu devenir avocat, mais il a pris une triste habitude, soir et matin, matin et soir il boit, et quand par hasard il rentre au logis à la pauvre femme qui sanglote, il dit: donne-moi de l'absinthe afin que je m'enivre, donne-moi de l'absinthe sans quoi je ne peux vivre, donne-moi de l'absinthe car l'absinthe j'aime ça, donne-moi de l'absinthe ou sans ça je te bats sauvagement.
Et donc, en avril 25, donc c'est vraiment tout récent, Marie-Claude vous confie la gérance du musée. Alors, gérance, ça veut dire quoi, en fait ?
Ça veut dire qu'on on gère tout. C'est-à-dire qu'on gère... On s'occupe donc du musée, de faire fructifier le musée, de le faire tourner, d'accueillir le public, de tout. Toujours continuer à accueillir le public et de développer le bar qui existait déjà, puisque Marie-Claude, elle avait déjà son bar pour la dégustation d'absinthe. La seule chose qu'on a un peu apporté, c'est justement de l'ouvrir et le développer pour boire autre chose que de l'absinthe, c'est-à-dire des bières, des softs, du café, du thé, l'offre de salon de thé qui existe aussi. Voilà, on a voulu diversifier un peu, le rendre un petit peu indépendant du musée pour aussi récupérer le public qui vient prendre une tasse de thé et potentiellement s'intéresser à l'absinthe et venir dans un second temps découvrir le musée et la collection à l'intérieur.
Tout à fait.
Voilà, avec beaucoup de livres aussi qui sont proposés, des cartes postales, des objets sur le thème de l'absinthe.
Il y a des objets, il y a également donc il y a plusieurs objets, il y a des bouteilles d'absinthe, des objets liés à l'absinthe et au 19e siècle, mais il y a également tous les livres de Marie-Claude. Marie-Claude a écrit entre 20 et 30 ouvrages, voire plus, si elle m'entend, je me ferais peut-être taper sur les doigts.
Oui, forcément.
Mais des livres sur l'histoire de l'absinthe, mais également sur les affiches, sur les dessins de presse, sur les marques d'absinthe, sur les cuillères. Vous avez toute une collection impressionnante, toute liée à l'absinthe et au 19e siècle.
Et puis on peut signaler que, même si elle a pris un petit peu de distance, elle continue à alimenter son blog sur l'absinthe, qui est passionnant.
Elle continue à alimenter son blog et puis elle vient nous donner des coups de main. Hein.
Voilà. et puis elle nous conseille tous les jours. Hein, donc elle est toujours là et elle sera toujours là, bien sûr.
L'absinthe conserve.
L'absinthe conserve. Et elle n'en boit pas.
Hein. Non, elle ne boit pas une goutte d'alcool en plus.
Voilà, c'est ça, le paradoxe.
J'ai longtemps entendu battre cette ville au fond de moi. J'ai longtemps parcouru chaque chemin menant à toi. Alors que l'on se tient devant la vie qui va de soi. Et j'ai longtemps usé cette ville à ne plus pouvoir croire que c'est possible, à ne plus pouvoir voir que dans ces murs se repasse sans fin le film de chaque chemin. Se repasse sans fin les souvenirs perdus. Oh. à croire que dans ces murs dansent de sombres inconnus qui connaissent mieux que toi les chemins que j'emprunte, les verres que je bois et la douceur d'absinthe dans laquelle je noie les ombres qui m'emportent vers de nouveaux destins, les amours qui supportent mes colères, mes chagrins et qui ne sont plus loin. Aucune de ces rues ne ressemble à toi, plus aucune de ces routes n'éteigne tes pas, que ce taxi me rattrape et m'étreigne jusque-là. Et j'ai longtemps usé cette ville à ne plus pouvoir croire, que c'est possible à ne plus pouvoir voir, que dans ces murs se repasse sans fin le film de chaque chemin, se repasse sans fin les souvenirs perdus. Croire que dans ces murs dansent de sombres inconnus qui connaissent mieux que toi les chemins que j'emprunte, les verres que je bois et la douceur d'absinthe dans laquelle je noie les ombres qui m'emportent vers de nouveaux destins, les amours qui supportent mes colères, mes chagrins et qui ne sont plus loin.
Ghislain et Julien,
oui.
Alors vous aussi, vous avez un parcours, disons, un peu intéressant, on va dire. Mmh. Par exemple, Ghislain, donc. Mmh. Premier prix du Conservatoire national d'art dramatique, monsieur.
Oui, oui, bon, oui, 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 bah oui, 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 oui. Je suis comédien depuis pas mal de temps. J'ai commencé à prendre mon premier cours d'art dramatique. Je devais avoir 11 ans, donc oui. Et puis, ça m'a amené au conservatoire. Et après, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies et j'ai monté ma compagnie aussi. Et après, j'ai été dans un petit théâtre et c'est là où j'ai rencontré Julien et on a monté une compagnie à nous.
On en reparlera juste après.
Voilà, mais effectivement, oui, oui. J'ai joué pas mal. Enfin, on a joué pas mal de choses et de spectacles, notamment notre spectacle sur les frères Van Gogh.
On va y revenir. Voilà. Alors, Julien, une licence de lettres.
Une licence de lettres
et
une licence d'administration du spectacle, plus un master, c'est très pompeux, mais c'est pas si pompeux que ça, un master de sociologie et anthropologie en politique culturelle. Voilà, donc plus un parcours universitaire, on va dire, au départ. Et puis j'ai écrit que trois pièces, un roman.
Pas mal quand même.
Ouais, ça va, mais là j'ai un peu moins le temps. On va s'y remettre bientôt.
Et alors tous les deux, vous avez été associés et responsables de l'accueil, de la communication d'un théâtre parisien.
Oui, le Guichet Montparnasse, qui est un petit théâtre dans Montparnasse, hein, bien
d'accord,
sûr.
Ouais.
Et Ghislain a travaillé 25 ans là-bas, moi 15 ans. Et puis là, on a changé un petit peu de voie. Donc depuis le mois de janvier, on a quitté ce théâtre. On a fondé notre compagnie, la compagnie Nuit Étoilée.
Alors bien sûr, déjà on va revenir sur ce nom qui n'est pas anodin.
La Nuit Étoilée, tiens, on l'a cherché loin.
Surtout à Auvers-sur-Oise.
Voilà. Et donc vous avez joué 7 spectacles ensemble.
Ouais. Oui, peut-être, ouais, ça doit être ça.
Mais oui, c'est
ça. C'est marqué sur votre site.
Et on ne ment absolument pas sur le site, donc oui.
Voilà.
Oui, on a dû jouer 7 spectacles ensemble, en effet.
Oui.
Et là, c'est le dernier, donc Van Gogh, Deux Frères pour une Vie. C'est le spectacle qu'on a fait de A à Z ensemble, vraiment. On a mis en scène tous les deux, on a écrit à partir des lettres de Vincent à Théo. On l'a écrit ensemble. Et on joue tous les deux, donc c'est vraiment, on va dire, notre bébé, comme on peut dire.
Et donc c'est un spectacle qui est conçu à partir des lettres, un échange de lettres.
Oui, c'est 18 ans de la vie des deux frères, jusqu'à en fait la mort de Vincent. Ouais.
Gauguin est parti aux îles lointaines, moi je suis ici l'esprit en GM. J'aimerais tellement sortir de cet asile, le médecin me dit que c'est difficile. Théo, je t'écris du fond de ma vie. 2 sous pour le pain, 3 sous pour le vin. Théo, je t'écris du fond de ma folie. Les blés cette année se mettent à griller. Théo, au réveil, j'ai vu le soleil tourner comme un fou. J'ai peur tout à coup, Théo, c'est facile, du fond d'un asile, de se croire dément. Signé Vincent, signé Vincent. J'ai voulu montrer mes toiles aux marchands. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas bien le temps. J'avais pourtant la toile de Provence, où le chemin tourne, où le ciel avance. Théo, je m'épuise après chaque crise, mais ne t'en fais pas, je repeins déjà. Je t'ai peint ma chambre un jour de novembre. J'ai les yeux qui s'usent au blanc de ces ruses. Théo, je t'écris, j'ai mal à la vie.
Alors, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas encore, Vincent et Théo, son frère, sont enterrés, bien sûr, au cimetière.
De Vers-sur-Oise.
Voilà. Et alors, bon, il faut quand même rendre hommage à une femme. Johanna Van Gogh Bonger.
Bien sûr.
Alors, qui était-ce?
Johanna, c'est la femme de Théo.
Ouais.
Donc, en fait, Vincent ne serait rien sans Théo et ne serait rien sans Johanna non plus. Vincent a vendu une seule œuvre, un seul tableau de son vivant. Et c'est Théo a tout fait. Il était marchand d'art, hein, Théo. Il a tout fait pour vendre les œuvres de son frère. Il a eu beaucoup de mal. Et il est mort 6 mois après. Vincent Van Gogh est mort le 29 juillet 1890. Et Théo l'a suivi en janvier 1891, donc 6 mois après seulement. Et c'est sa femme, Johanna, avec d'autres personnes. Il y a eu Émilie Bernard, Andreas Berger, qui est le frère de Johanna, qui était aussi un marchand d'art, qui ensemble, et surtout Johanna, vont tout faire pour vendre les œuvres de Vincent. Et vont réussir à faire ce que Vincent Van Gogh est aujourd'hui. Il ne serait pas connu sans Johanna.
Voilà.
Donc c'est elle vraiment qui a tout fait pour, et qui a édité aussi les lettres qui a rassemblé toutes les lettres de Vincent à Théo et qui les a éditées et qui a une mine d'informations pour tout passionné de Van Gogh.
Et elle commence à classer la correspondance entre Théo et son frère. Vincent a envoyé des centaines de lettres décrivant son processus créatif. Parallèlement, elle lit des ouvrages d'histoire de l'art, rencontre des critiques, et finit par convaincre l'un d'entre eux, Jan Vett, de lire quelques lettres pour mieux comprendre l'œuvre. Il en vient à apprécier le travail de Vincent, qu'il jugeait au départ vulgaire. Avec son soutien, elle organise la première exposition solo de Vincent Van Gogh à Amsterdam en 1892. Parlant français, allemand et anglais, Jo commence à correspondre avec des patrons de musées ou de galeries. Le monde de l'art semble prêt désormais à découvrir l'œuvre de Van Gogh. En 1901, elle se remarie avec un peintre, Johann Cohen Rothschild. Elle adhère à une association féministe et au parti travailliste néerlandais. La famille déménage à Amsterdam. En 1905, c'est à Amsterdam, justement, qu'elle organise à ses frais la première grande exposition des œuvres de son beau-frère. Elle loue la salle, fait imprimer les affiches, c'est son fils qui écrit les invitations. Cela reste à ce jour la plus grande exposition de Van Gogh jamais réalisée, avec près de 500 œuvres. Des critiques viennent de toute l'Europe, les prix de vente des tableaux s'envolent. En 1913, a lieu la première exposition Van Gogh à New York. Jo vient de perdre son deuxième mari. En 1916, elle part rejoindre son fils aux États-Unis. Elle y passera 3 ans, durant lesquels elle entreprend de traduire la correspondance des frères Van Gogh en anglais, ce qui sera son dernier grand projet. Avant de quitter l'Europe, elle avait décidé de réunir les deux frères, fait exhumer le corps de Théo qui se trouvait dans un cimetière néerlandais, pour l'enterrer aux côtés de Vincent à Auvers-sur-Oise.
De Pont à Veynes à Sotheby, des mornes plaines à Saint-Rémy, et par centaines, des corbeaux noirs. Dans tes migraines, dans ton regard, derrière l'église d'Auvers-sur-Oise, une lumière grise, un bleu turquoise, tu auras mis longtemps,
y aura mis longtemps. Mais aujourd'hui, Vincent, Vincent, tes ténèbres s'éclairent d'un éclat de diamant. Dans le rouge et le vert, tu es encore vivant, Vincent, Vincent.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Je vous propose de retrouver Julien Gislin, les gérants du musée de l'Absinthe à Auvers-sur-Oise, qui nous ont présenté dans un précédent rendez-vous compte l'immanquable collection de tableaux, affiches publicitaires, eaux-fortes, objets cultes liés à la fée verte, à l'Absinthe. Une visite absolument incontournable, une visite qui se termine par une dégustation d'Absinthe, selon le rituel de l'époque, dans le bar des années folles, on pourrait dire, reconstitué avec beaucoup de minutie.
Il faut prendre un verre qui a à sa base un bourrelet. Ça va être la dose d'absinthe que l'on va mettre dedans. Ensuite, l'absinthe n'est pas sucré, donc je vais pouvoir mettre un petit sucre dedans. Sauf que si je le mets dedans, le sucre va se durcir. On a trouvé une petite astuce, c'est de le poser sur une cuillère percée et poser cette cuillère sur le verre. Mais vous allez voir, un miracle se produit. Des petites gouttelettes qui viennent créer un petit voile lacté.
L'absinthe selon Petrus Borel. Lorsque votre absinthe est versée au fond d'un verre de cristal, mettez sur la pelle en métal le sucre en deux pierres cassées. Puis, faites couler savamment l'eau claire en petites cascades. Regardez bien, voici comment. Et, pour qu'elle ne soit pas fade, versez surtout très doucement. L'absinthe, devenant plus pâle, répandra sa divine odeur. Et vous verrez, dans la blancheur de cette subtile liqueur, de beaux reflets d'ambre et d'opale. Vous aurez de cette façon une absinthe bonne et bien faite. Profitez donc de ma leçon. Si cela vous monte à la tête, vous calmerez votre âme en fait en nous chantant une chanson.
Dans un taudis dont l'amour d'une mère ne peut cacher l'atroce pauvreté, quelques bambins vivent dans la misère d'un peu de soupe et de grands coups de pied. Le père avait pourtant fait des études et aurait pu devenir avocat, mais il a pris une triste habitude, soir et matin, matin et soir il boit. Et quand par hasard il rentre au logis, à sa pauvre femme qui sanglote, il a dit: donne-moi de l'absinthe afin que je m'enivre. Donne-moi de l'absinthe sans quoi je ne peux vivre. Donne-moi de l'absinthe car l'absinthe, moi, j'aime ça. Donne-moi de l'absinthe ou sans ça je te bats sauvagement.
Et donc vous avez joué au musée cette pièce Van Gogh, deux frères pour une vie.
Oui.
On l'a joué deux fois. On l'a joué en juin 2024 pour les 30 ans du musée et on l'a joué en juillet 2025.
Voilà. Est-ce que vous allez la rejouer ? C'est dans
oui,
vos projets ?
Oui. Oui, on va la rejouer dans la saison, sans doute au printemps 2026. Puis bah, peut-être au château, puisqu'on l'a joué trois fois au château d'Auvers-sur-Oise.
Ah, c'est bien.
C'est bien, ouais, on l'a joué trois fois.
Il y a un peu plus de place qu'au musée, peut-être.
Il y a un petit peu plus de place.
Oui, c'est plus okay. Facile, ouais.
Et puis au mois de juin aussi, vous avez, alors c'est pas vous qui l'avez interprété, mais un autre comédien qui a interprété Le Horla.
Ah oui, Jean-Michel.
De Maupassant.
C'était formidable, c'était un succès fou, les gens ont adoré. Jean-Michel est complètement investi. On a l'impression qu'il était là devant, que le Horla était là devant nous. C'était, puis c'est un texte de Maupassant, c'est-à-dire on veut ouvrir bien entendu toute démarche artistique au musée, mais on aime bien rassembler, avec l'aide de Marie-Claude notamment, tout ce qui a un rapport avec le 19e siècle. Maupassant, qui buvait beaucoup d'absinthe d'ailleurs,
oui.
Va très bien dans cet univers du musée et c'était vraiment formidable. Le but, c'est d'accueillir beaucoup de pièces, d'ouvrir du chant théâtral, du chant pictural, et tout ce qui est aussi conférences scientifiques, voilà, dessins, un peu tout, vraiment que ce lieu vive pour tout le monde, pour les Auversois, pour les Valdoisiens,
Pour la France.
Pour les Franciliens, pour la France, pour le monde, allez.
En fait, on veut simplement que les gens se sentent bien au musée de l'Absinthe, que ce soit au bar, au musée, et dans le jardin, voilà. Que ce soit un lieu qui rapproche les gens et un lieu où on se sente bien.
En plus, le Horla, le personnage principal qui devient fou,
oui.
En fait,
ouais, complètement.
Et Vincent Van Gogh, on peut éventuellement trouver des points communs, pourquoi pas.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on joue dans une salle, donc c'est la plus grande salle du musée, la 5e, qui est une salle qui peut accueillir entre 30 et 40 spectateurs, et on joue au milieu des tableaux. Donc il y a un tableau magnifique avec un buveur d'absinthe qui a l'air complètement fou. Alors quand vous jouez quelqu'un qui bascule dans la folie devant ce tableau-là, ça marche très bien. Il y a vraiment une correspondance, c'est très intéressant, c'est inspirant pour nous, comédiens, ou pour les comédiens qui viennent, et c'est inspirant pour les spectateurs. Donc il y a vraiment un lien qui se crée, et ça c'est formidable.
Surtout si la fée verte est assise parmi les spectateurs.
Mais la fée verte est toujours assise.
Là. Oui, elle entre les murs du musée.
Voilà, on va écouter comme pause musicale un titre qui s'impose en quelque sorte, Barbara, tout simplement, l'absinthe.
Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Toi tu n'es pas Verlaine, toi tu n'es pas Rimbaud. Et quand tu dis je t'aime, oh mon Dieu que c'est beau, bien plus beau qu'un poème de Verlaine ou Rimbaud. Pourtant que j'aime entendre encore et puis encore la chanson des amours quand il pleut sur la ville, la chanson des amours quand il pleut dans mon cœur, et qu'on a l'âme grise et que les violons pleurent. Pourtant je veux l'entendre encore et puis encore. Tu sais que le m'enivre comme le bateau ivre, la chanson de ceux-là qui s'aiment et qui en meurent. Et si j'ai l'âme grise, tu sécheras mes pleurs. Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. Mais l'un c'était Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Aujourd'hui les je t'aime s'écrivent tant de mots. Fini les longs poèmes, la musique des mots, dont se grise Verlaine, dont se saoule Rimbaud.
Voilà notre émission, notre deuxième émission consacrée au musée de l'Absinthe, à Auvers-sur-Oise, à ne pas manquer, se termine. Julien, Ghislain, dernier mot, un projet, une invitation
Surtout, on souhaite que les gens qui viennent au musée de l'Absinthe ressortent comblés de découvertes, de venir redécouvrir justement cet alcool, l'absinthe. Et en tout cas, s'ils n'en consomment pas, de ressortir du musée en ayant compris que cette malédiction était vraie ou fausse, peu importe, mais de se rendre compte par soi-même de ce qu'était l'absinthe et de réhabiliter un peu l'absinthe.
Oui, bon, en complément, vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'offrir aux visiteurs, aux spectateurs, aux habitants, aux gens qui viennent, une expérience à la fois gustative, pour ceux qui le souhaitent, une expérience botanique avec les plantes, une expérience culturelle, humaine aussi, parce qu'on essaie d'apporter ce qu'on essaye, une chaleur humaine,
oui,
d'être à l'écoute des gens, parce qu'on aime les gens. Et on essaye vraiment d'accueillir tout le monde, d'où qu'ils viennent, pour leur offrir une expérience culturelle et humaine.
Oui, c'est vraiment un partage, vraiment, un vrai partage.
Vous nous rappelez les coordonnées du musée, l'adresse, mais aussi le site internet,
les
heures d'ouverture.
Alors, les heures d'ouverture, c'est du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h, le dimanche jusqu'à 19h et le vendredi et samedi jusqu'à 20h. On est ouvert toute l'année, sauf au mois de janvier. Et puis après, les numéros de téléphone, c'est le 01 42 42 55 82. Et l'adresse du musée, c'est musée-absinthe.com, www.musée-absinthe.com. Voilà.
Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches aux mentoles.
Merci, c'était Didier sur IDFM. pour un nouveau rendez-vous compte que vous retrouverez bien entendu comme tous les autres en podcast. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, sur IDFM naturellement pour un nouveau rendez-vous compte.
Merci beaucoup.
Merci.